Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanc et Michel Arbat, c'est consacré à la vie des poètes. Avec au gré des émissions les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanc et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. C'est une émission un peu spéciale ce soir, puisque vous savez que c'est le printemps des poètes qui commence. Nous, on serait plutôt pour le plein temps des poètes, mais on suit avec plaisir cette manifestation. Et donc, on a décidé de faire un numéro un petit peu spécial. Spécial par deux choses. La première, c'est qu'on a rassemblé une sorte de best-of de quelques enregistrements qu'on avait fait autrefois et qui concernent des tas de poètes dont on a fait la traité de la vie, et l'autre, c'est qu'on a invité deux poètes qu'on estime beaucoup, hein, qui sont Anne Belin et Michael Gluck, voilà, qui vivent dans notre région. Alors, comment ça va se passer? Bien. On va faire une sorte de florilège dans lequel on va vous demander de participer au jeu de s'insérer dedans en disant quelques textes à vous. Mais avant, je vais dire deux mots sur chacun d'entre vous, deux mots très brefs que vous compléterez peut-être. Je pense que vous ne voulez pas trop qu'on épluche votre biographie, ce qui est plutôt le jeu habituel. Anne, en fait, on se connaît peu, mais on vous a rencontré au cours d'une journée où la BIP intervenait à Bédarieux, et on a eu beaucoup de plaisir à entendre vos textes.
Merci.
Voilà, je dirais très peu de choses. En général, on ne dit pas l'âge des dames, mais les gens entendront bien à votre voix.
J'ai 50
que,
ans.
Voilà, que vous auriez pu. À votre voix, on ne le dirait pas. Et nous qui voyons, on ne le dirait pas non plus. Voilà, vous avez publié quelques recueils. Je pense le plus. Peut-être qui circule le plus, c'est peut-être À distance des corps, qui a eu. Dont j'ai lu pas mal de critiques. Enfin, pas de critiques, mais d'échos dans Poésie Bao, par exemple. Et puis, vous avez également écrit un recueil qui s'appelle TV Série, au Dé Bleu, et qui a eu, je crois, un prix de poésie de la ville d'Angers. Voilà.
Oui, c'est ça.
Vous me dites si je ne dis pas trop de bêtises, là, je ne risque pas trop, parce que je n'en dis pas beaucoup.
Non.
Alors, Michael, excusez-moi. Michael, je vous connais depuis pas mal de temps. On a même fait quelques...
Les témoins un jour,
voilà. Alors, Michael, il y a une kyrielle, je vais dire, de textes édités chez des gens comme Jacques Brémond, Lamourier, Cadex. J'ai même vu que vous aviez publié un texte chez Jean-Michel Place également.
Oh, oui, c'est voilà. Un de mes premiers livres très importants. Oui.
Voilà, et ben je vais pas me hasarder dans un jeu qu'on ne fait pas ici, qui est d'analyser. On ne fait jamais aucun commentaire, nous, sur les textes.
C'est dommage, j'aurais pu enfin comprendre ce que j'écris.
Oui, mais est-ce que l'important, c'est de comprendre dans la poésie? Non. Hein, Georges Perrault disait, ce qui est chouette dans la poésie, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre, justement. Voilà. Alors, peut-être je vous laisse. Vous pouvez nous dire, vous, comment vous sentez ça, ce printemps des poètes, avec ce thème de l'enfance, que finalement, autour duquel on va un peu tournicoter, parce que je ne sais pas si on va vraiment parler, Anne.
Ah. Bon, l'enfance, c'est l'être inspiré, hein, c'est l'être totalement présent au monde. C'est le poète. C'est pas moi qui le dis, c'est Baudelaire. Hein.
D'accord.
Mais la totale inspiration, la totale présence, c'est l'enfance. Et en un sens, tout poète doit retrouver cette forme de présence totale. Voilà. Bon, ça ne suffit sans doute pas non plus pour être poète, d'être enfant. Hein,
voilà, c'est ça que j'allais dire. Bon, tous les enfants n'écrivent pas. Enfin, mais oui, la présence, oui. Une certaine, oui, ça, tout à fait d'accord, Michael.
Je ne sais pas. Pas très bien répondre à cette question, sinon peut-être dire ceci, c'est que pour moi la poésie c'est sortir de l'enfance, parce que littéralement l'enfant c'est celui qui ne parle pas, et je sais que moi-même j'ai été menacé un peu de m'enfoncer enfant dans ce ne pas parler, dans le silence, et que si je suis présent ici parmi vous, c'est peut-être parce que l'écriture m'a permis de conquérir une voix, d'aller vers une voix, d'aller vers la possibilité de parler. Voilà.
Bon, voilà déjà tout un programme de votre part à chacun. On va pas faire une polémique d'ailleurs là-dessus.
Non,
il n'y a pas tout un débat sur cette.
C'est un parcours, ce sont des parcours
bien sûr,
très
bien
différents
sûr.
Et je ne crois pas qu'il y ait une vérité en matière de poésie.
Eh bien justement, on va peut-être écouter alors d'autres voix de poètes. On va écouter peut-être un texte, là, la série qui vient, il y a un texte de Prévert, un texte de Boris Vian, un autre texte de Prévert et un texte de Desnos, qui tous ont trait à l'enfance. Alors, devinette, vous nous envoyez des réponses, quel est le rapport avec l'enfance? Et vous gagnez une autre émission.
Je suis allée au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux, pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs, et j'ai acheté des fleurs, pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille, et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. Et puis, je suis allée au marché aux esclaves, et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour.
Il casse le monde. Il casse le monde, en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi, il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang. Je l'aime. Je l'aime, la planche usée de mon lit, la paillasse et le chalit, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir, c'est ma fête et je suis fière. Je l'aime, ce panier rempli de sons où je vais poser ma tête. Ah, oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez, mon cœur.
Enfant, j'ai vécu drôlement, le fou rire tous les jours, le fou rire, vraiment. Et puis une tristesse tellement triste, quelquefois les deux en même temps, alors je me croyais désespéré. Tout simplement, je n'avais pas d'espoir, je n'avais rien d'autre que d'être vivant. J'étais intact, j'étais content et j'étais triste. Mais jamais je ne faisais semblant, je connaissais le geste pour rester vivant, secouer la tête, pour dire non. Secouer la tête pour ne pas laisser entrer les idées des gens. Secouer la tête pour dire non et sourire pour dire oui. Oui aux choses et aux êtres. Aux êtres et aux choses, à regarder, à caresser, à aimer. À prendre ou à laisser. J'étais comme j'étais, sans mentalité. Et quand j'avais besoin d'idées pour me tenir compagnie, Je les appelais et elles venaient. Et je disais oui à celles qui me plaisaient, les autres je les jetais. Maintenant j'ai grandi. Les idées aussi. Mais ce sont toujours de grandes idées, de belles idées, d'idéales idées. Et je leur ris toujours au nez. Mais elles m'attendent pour se venger et me manger un jour où je serai très fatigué. Mais moi, au coin d'un bois, je les attends aussi et je leur tranche la gorge, je leur coupe l'appétit.
La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi et jusqu'à l'autre nuit. Les seins bandés et les yeux clos, elle parcourt un beau pays où la tendresse se mêle à la colère. Elle sera toute surprise après la danse, après l'ivresse, de retrouver la rue froide, la nuit précoce et les draps froids. Comme une Vénus inconnue surgissant de la conque blanche du lit, elle reposera son beau corps en rêvant d'un Olympe noir, comme elle. Et des anges noirs comme du charbon, soulevant cette déesse de couleur, l'emporteront vers un pays de ténèbres où brille un soleil éclatant et bleu. Là, les amants sont tendres et méchants, et ils comprennent ces chansons. L'amour ne les fatigue pas, et la mer a le parfum des corps virils. Voilà la vie de la négresse qui danse encore à minuit, qui dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à demain midi et toute l'autre nuit. Ndinge yuma ba ke korobena, ndinge jugu ko kararotie. Ndinge yuma ba ke korobena bi, ndinge jugu ko kararotie. Tuya many mani tu yale tu ya mani fa here barana kadio here kurabora
amoya. Voilà, c'était Patrick qui nous disait La Négresse de Desnos avec une belle musique de Salif Keïta. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Anne, que l'enfant, c'est le poète par définition par sa présence. Et Michael, vous nous avez dit, le poète, c'est le contraire de l'infant, c'est-à-dire celui qui ne sait pas parler. Mais de toute façon, tous les deux, vous écrivez des poèmes. Donc, vous êtes sortis de ce stade-là. Et comment ça se passe, l'enfance de vos poèmes?
Alors, c'est un petit carnet dans lequel il y a un petit, une écriture qui est en général un peu embrouillée. Ça permet d'avoir une sorte de magma. Et l'enfance, c'est ça. Pour moi, c'est le moment où ça sort comme ça. Il ne faut surtout pas que ce soit trop travaillé au début, parce que c'est là où il y a des choses intéressantes après à redécouvrir. Et même, il vaut mieux que ce ne soit pas très bien écrit, de sorte qu'en relisant, je puisse me tromper et trouver des choses en me trompant.
D'accord, une place à des erreurs qui ouvrent des fenêtres.
Oui, voilà. Des fenêtres ouvertes dans la langue et dans l'embrouillamini des choses, des mots. C'est, pour moi, c'est comme ça.
D'accord. Et Michael, alors ? C'est du magma aussi ?
Ça commence toujours par du magma. Ça commence par une espèce de mastication du magma. Des sons, ça commence par des hallucinations, parce que je vois les lettres et les lettres denses. Et un mot peut être un point de départ. Je prends un mot, je le tourne dans tous les sens et ça va devenir un livre. J'ai souvent la pensée d'ailleurs qu'un poème n'est jamais un poème seul. C'est toujours un poème qui s'inscrit dans un livre, dans une pensée du livre. Donc je prends un mot et puis ça se met... Ça se bouscule dans mon crâne.
D'accord.
Et crâne, ça devient nacre, ça devient écran, et je vais
carne.
Partir. Ça devient la carne, bien évidemment. Nous avons besoin de carne pour être incarnés.
Voilà. Alors, et comment alors les petits enfants ils reçoivent ça? Parce que là, il faut qu'on tourne un peu autour du pot, mais il y a cette histoire du thème de l'enfance là qui est mis en avant. Est-ce qu'il n'y a pas un cliché un petit peu, là je vais faire un peu l'avocat du diable, un peu cucul à praline, quoi, autour de l'enfant, lui, reçoit mieux la poésie parce qu'il est justement dans cette espèce d'innocence, enfin, un truc un peu éculé d'ailleurs, contre lequel beaucoup se sont révoltés, quoi, et ont écrit un peu en sortant de là, en disant. D'ailleurs, nous-mêmes, on s'est un peu battus contre une vision un petit peu mièvre ou édulcorée, quoi.
Bah, je trouve qu'on a une vision mièvre de l'enfance. Je veux dire, c'est la période la plus difficile qui soit. Et je crois que là, je serais assez d'accord avec Anne. Je veux dire, nous sommes dans l'enfant est poète, non pas parce qu'il est niais, mais parce qu'il est confronté à l'espèce de violence. Affreuse du monde, et que même lorsqu'il a la chance d'avoir autour de lui des aimants, c'est quand même une bagarre incessante. C'est quand même la naissance est une violence.
Oui, bien sûr, mais c'est une violence quand même qui alors, débouche sur quelque chose d'extraordinaire.
Ah, mais je ne condamne
mais
pas
bon,
la violence.
Ça fait partie de la vie, ok. Oui, oui. Non, mais c'est plutôt, voilà, c'était le point de vue, voilà, cette espèce de. Je sais pas comment dire, de privilège de l'enfance à mieux entendre de la poésie que d'autres, quoi. C'était un peu ça qui était.
Mais est-ce qu'il faut pas des enfants spéciaux pour la poésie plutôt qu'une poésie spéciale pour l'enfance? Parce que je ne sais pas, dans notre entourage, on a tous des enfants autour de nous ou pas, ou autour des amis, etc. Et moi, je me rends compte que finalement, ils sont pas tellement poètes, les enfants. Ils cherchent à être bien dans leur peau. Déjà, on leur a imposé cette existence. Ils ont toutes les peines du monde et je crois qu'ils ont encore plus de peines aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains temps, à être eux-mêmes, à acquérir une identité. Et malheureusement, je veux dire, un certain nombre d'enfants sont plutôt normés, tu vois, normés. Et alors que, de mon point de vue, si tu veux, la poésie demande à s'écarter des chemins normés.
Ok, et ben voilà, on va peut-être en rester là. Et puis peut-être, si Anne, vous nous parliez de l'enfance de vos textes, vous allez peut-être nous en lire un. Mais justement,
alors,
par exemple, comment ce magma. Vous vouliez dire peut-être un mot sur le titre de ce magma.
Alors, bon, comme le livre, moi, j'entends d'abord, je suis un petit peu comme Michael, j'entends un mot qui tourne. Donc j'ai entendu le mot gésir.
Gésir, oui.
Voilà, alors ça me plaisait, j'entendais ce mot et je me disais ce serait un livre qui serait autour de cette idée d'être à terre ou en terre, ou voilà. Et voilà, et après j'ai pris des notes, donc ça s'appelle Journal de Gésir.
On vous écoute alors.
1. Leur précipitation. Le fait qu'elles aboutissent toujours. Ici et là, des trajectoires imprévisibles. Des isolements. Elles se lancent. Accélération foudroyante, certaines doublent toutes les autres, ou bien une qui reste loin à l'écart. Ligne de crête et frangée, transparence. 2. Parfois le tissu a un trou, des fibres arrachées et au milieu plus rien. Il faut voir comme autour alors ça se met à bouger, ça vibre, ça se resserre. 3. Quelque chose prend corps. Quoi ? Cela prend corps. Quelque chose médite. Ce qui erra naît. Espace noir, bercé de plumes volent, tiges de son sur les rails et des clongs, clongs, clongs. De longues manivelles boursouflées, qui hante, l'oreille aiguisée, l'or, eille qui dort, encore, vent, suit, eux, ne rien dire, et se précipiter devant dans le noir, et se précipiter dans le noir, à travers le sommeil, à travers l'ombre courageuse. Encore, faut-il vouloir aller devant, aller d'un bond là, ah, là-bas, dans un trou de sable et de gravier, contre le châssis, rivé, ah, le visible châssis désossé. 4. Dans ce livre, il y aurait une méditation embouteillée, un esprit libre d'aller son allure et d'aller ailleurs. En même temps, on verrait se superposer au-dessus les strates, les coupures, les choix parfois rudes. Dessous, libre entortillement des fils, la mort dans la maison avec ses fils. 5. L'amour et l'impuissance de l'amour arrivés au pied. 6. Le grand enjeu soudain dévoilé aussi par les livres, tel qu'en une matinée de course, en pleine nature ou de chasse, les pieds dans la boue, fouettés d'air, je voulais fuir, oui, par mon livre, sauter ailleurs, fuir cet enfermement. Un jour perdu, un moment perdu, mais non pas plus de clarté du pays que je voulais fuir. 7. Il a commencé, enjambé, noué, percé, branché, humé, le pays pauvre trempait ses doigts sur un clavier humide, et chaud encore, présent encore, mais rien de tout ça ne peut être dit ni approché. Nuit, impénétrée encore, quelques secondes, une seconde, et défait, dénoué, descendu, animal noir dans sa noirceur.
La colère que quiebra al hombre en niños, que quiebra al hombre en pájaros iguales, y al pájaro después en huevecillos. La cólera del pobre tiene un aceite contra dos vinagres. La cólera que el árbol quiebra en hojas, a la hoja en botones desiguales y al botón en ranuras telescópicas.
La colère
la
du pauvre
del pobre tiene dos
possède
ríos
deux fleuves
mares.
Contre des milliers de mers.
La colère que
la colère qui
el
brise
bien
le bien
dudas,
en doute,
a la duda
le doute
en, tres aceros
en trois arcs semblables,
y al arco,
et l'arc ensuite
luego, en,
en
tumbas imprévistas. La colère
du pobre
tiene un acero
possède un
dos
acier
puñales.
Contre deux poignards.
La colère que quiebra
la
l'alma
qui brise
en
l'âme encore.
Al cuerpo en órganos
le corps en
organes
indissemblables
y al
et l'organe en
octaves pensamientos.
La
colère
du pauvre
tiene un fuego central
possède un feu
dos
central
cráteres.
Contre deux cratères.
Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne. Je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour. Je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne. Je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur, et lui, lui seul, pour témoin de sa gloire et de sa raison. Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habit, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé. Faiblesse ou force, te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas. Entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Dans les villes, la boue m'apparaissait soudainement rouge et noire, comme une glace quand la lampe circule dans la chambre voisine, comme un trésor dans la forêt. Bonne chance, criai-je, et je voyais une mer de flammes et de fumée au ciel. Et à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres.
Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et... pourquoi pas ?
Voilà, tout le monde a reconnu ce texte de Robert Desnos, mais justement c'est intéressant parce que ça vient des Chants de fleurs et Chants de fables qui était un recueil en principe écrit pour les enfants. Il les a écrits, je crois, pour les... je ne sais plus qui d'ailleurs, c'était les enfants de Paul-Élise de Harme et puis aussi la famille... bon, peu importe, hein, c'était ce musicien, Honegger, Darius Milhaud, les enfants de Darius Milhaud, voilà. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant. Un comédien de la région de Nancy avait fait une étude, il faisait un spectacle sur les conditions de la vie pendant l'occupation allemande, et interrogeant des cheminots, quoi, il leur posait la question, enfin, comment ça se passait à l'époque, et un cheminot lui avait dit « Je me souviens très bien des trains de la déportation ». La loco, c'était la T21, elle faisait 18 mètres avec son tender qui faisait comme un chapeau par derrière, quoi. Et donc, à ce moment-là, il s'est mis à enquêter, enfin, il s'est mis du coup à relire complètement tous les chants de fleurs et chants de fables. Et effectivement, il y a plein de rendez-vous qui parlent, parce que ces textes, en plus, ont été écrits pendant l'occupation. Ils sont parus en 43. Et ça a été avéré d'ailleurs par la suite que dans une interview qui est sortie récemment, enfin, il y a eu un DVD qui est sorti il y a 4-5 ans, qui était produit par... Aurore Breton sur Desnos, qui s'appelait Inédit, où un monsieur qui était assez jeune à l'époque, qui avait rencontré Desnos, l'avait interrogé là-dessus. Et Desnos lui avait dit « Moi, j'écris des choses qui ont l'air d'être des poèmes pour les enfants, mais je dis plein d'autres choses dedans. » Notamment, par exemple, « 10 000 papillons sur Viry-Châtillon », quand on sait que le seul lâcher de tract qu'il y avait eu à l'époque, c'était sur Viry-Châtillon, et ainsi de suite. Alors, on peut relire des tas de poèmes sur Pétain, sur l'herbeau juif, par exemple, le Réséda, qui est l'herbeau juif, enfin, des tas de sous-entendus qui cheminent. Alors, c'est très drôle de penser que ce texte, qui est absolument appris par tous les enfants de toutes les écoles de France, je crois, quasiment, eh ben, il trimballe derrière un autre message. Voilà, et ça rejoint, je pense, que vous disiez, Michael, sur la... voilà, sur la violence qui existe partout, mais qui peut aussi être dite avec une distance, comme elle est dite dans ce texte, par exemple.
Oui, mais c'est, pour moi, c'est exactement comme les représentations que l'on a du printemps, comme la jolie saison, tout douce, hein, tout poétique. Et c'est un poète comme Mario Luzi qui fait remarquer qu'on oublie complètement la violence quand il faut un bourgeon qu'il traverse déjà la chair de l'arbre, qui l'écorche quasiment. C'est-à-dire que un printemps, c'est fait de violence, du renouveau, c'est fait de suicide, des neiges pour devenir torrent, c'est fait de choses comme celle-là.
Voilà, et on sait, Grossman, le soviétique, enfin le russe Grossman, dit une forêt, c'est une lutte à mort, quoi. Hein, tous les arbres se cassent la gueule, quoi, pour trouver une place. On va écouter un peu de musique pour adoucir les mœurs, avant cette guerre végétale. C'est Egberto Gismont.
Thank you.
L'aîné se penche sur l'enfant nouveau-né. L'aîné veille. Le petit frère l'amuse, qui cherche un sein perdu, lèvres ouvertes sur le ciel. L'aîné rit, l'aîné sourit, l'aîné jubile et se réjouit. Petit frère, quelle langue nous berce, petit frère. La voix lactée pose une étoile sur ta bouche affamée. Sarah voit le fils qu'Agar, la Misrite, avait enfanté à Abraham. Or, Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne, Agar, qui jouait avec son fils Isaac. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, que celle-ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des railleries. Ismaël riait avec Isaac. Ismaël jouait avec Isaac. Ismaël veillait sur son frère. Nous ne jouerons pas ensemble dans le sable. Tu ne seras pas chamelier sur mes épaules. Je ne porterai pas tes rires sur mon dos. Tu ne grandiras pas dans l'ombre de mon ombre. Petit frère, nous jouerons à la guerre.
Chose qui se brise, chose qu'on taille. On taille une chemise et on la perd. Mais personne n'a jamais cassé sa chemise. Robe de bal taillée, robe de bal perdue, usée, effilochée, moisie ou mémorable, jamais on n'entendit jeune fille parler de sa robe de bal cassée. Choses qu'on perd sont encore autre chose. Que savons-nous de plus? Je sais que ce qu'on peut casser n'est jamais immense. Je sais que l'homme est double et qu'il y a en lui, d'un côté ce qu'on peut casser, de l'autre ce qu'on peut couper. L'homme n'est pas immense. Il ne fond pas. L'immensité, quand il y entre, il y éclate. Dans son sang, quelque chose fait que son sang ne se mêle pas à la mer. J'ai vu dans une goutte d'eau éclater ses globules. Ce qui se casse en l'homme empêche qu'on le coupe. Chose cassée, chose jetée, chose recollée. Ô porcelaine, je ne me souviens pas de t'avoir connue plus douce qu'à cette fraction de seconde où ta fêlure se fit jour. Est-ce que tu souriais ? Au bout de mes doigts, sur le bord des lèvres de mes doigts, la commissure de tes lèvres, cette légère foudre arrivait comme de très loin à travers ton frêle orage. Nul orage n'est éternel. Au marbre levé sur la pointe des pieds, le ciel se marie. Comme j'ai vu le ciel à travers la voie lactée se frayer à la nage un chemin respirable, j'ai vu le ciel cueillir la porcelaine. J'ai vu le ciel venir se reposer dans la toile fragile et secrète des faïences, puis s'en aller, laissant une lézarde en elle pareille à la frayeur des zèbres. Débris, fragments, esquisses et morceaux.
Femme de grand air, femme de plein vent, est-ce que la nuit est douce pour vous? Femme de plein vent, rôdeuse rencontrée à l'aube, est-ce que la nuit ne vous déchire pas? Femme de grand air, laboureuse perdue dans les plaines, est-ce que la nuit est une moisson pour vous? Femme de plein vent, marchande de poissons aux mains crevassées, est-ce que la nuit coule vite pour vous? Femme réveillée au petit jour, femme traînant au travail des pieds meurtris, est-ce que la nuit est sans écho pour vous? La nuit est-elle douce? La nuit vous déchire-t-elle? Moissonnez-vous la nuit? La nuit coule-t-elle vite pour vous? Femme de grand air, femme de plein vent, femme de la nuit, de l'aube et du jour, rôdeuse, laboureuse, poissonnière, aimez-vous le plein air? Aimez-vous le grand vent? Thank you.
quoi contient belle langagière, florentine, vénitienne, assez pour être messagère, et mêmement les anciennes, mais soit lombarde, romaine, genevoise à mes périls, pimontoise, savoisienne, il n'est bon bec que de Paris. De beaux parler tiennent cher, se dit-on les napolitaines, et sont très bonnes caquetières, allemandes et prussiennes, soit grecques, égyptiennes, de Hongrie ou d'autres pays, espagnoles ou catalaines, il n'est bon bec que de Paris. Bretonnes, suisses n'y savent guère, gasconnes, n'aussi toulousaines, de petits ponts d'eux arrangèrent les concluront, et les lorraines, angloises et calasiennes, ai-je beaucoup de lieux compris, picardes de Valenciennes, il n'est bon bec que de Paris. Prince, aux dames parisiennes, de bien parler donner le prix, quoi que l'on dise d'italienne, il n'est bon bec que de Paris.
Avec cet extrait de François Villon, hein, tout le monde a reconnu la balade des dames parisiennes. Alors on peut dire que Villon, lui par exemple, c'était un enfant perdu d'une certaine manière.
Hein,
la place, qui parle beaucoup de son enfance d'orphelin. Alors moi, une question que je me posais, Anne quand même, Anne Belin, puisqu'il faut qu'on rappelle à nos auditeurs là, qu'on a pour inviter aujourd'hui Anne Belin et Michael Gluck. Le texte que j'avais entendu, enfin que nous avions entendu avec mes camarades de la BIP à Bédarieux, c'était un texte qui parlait du rapport d'une mère avec une fille.
Oui, oui, oui.
Alors, vous en dire un peu plus ?
Oui, oui, ça a été au point de départ de ce livre, pour le coup, une conversation avec ma fille, ma dernière fille, qui avait à l'époque 9 ans. Alors maintenant, elle ne veut pas croire qu'elle avait 9 ans, mais elle avait vraiment 9 ans, j'ai retenu la date. Et c'est une conversation qui m'a marquée, enfin qui a été un moment extraordinaire, puisqu'elle m'a demandé, de but en blanc, si ça m'arrivait à moi aussi de me sentir à côté de la vie. Et ça m'arrive très souvent. Et vraiment, j'ai senti une proximité et surtout... que quelque chose nous traversait, disons, toutes les deux, que c'était quelque chose de pas très facile à vivre, ni pour l'une ni pour l'autre, et qu'elle avait réussi à dire d'une façon très simple, très très simple. C'est surtout ça qui m'a frappée, qu'elle arrive à le dire, alors que moi, ça m'avait pris tellement de temps.
D'accord, mais peut-être c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est les éclairs des enfants, mais ça, il y en a toujours, et peut-être c'est ça qu'on cherche aussi. Alors peut-être ce serait peut-être ça la chose qu'on cherche, qu'un poète cherche dans l'enfant, c'est cette capacité d'invention, parce qu'on est encore un peu naïf avec le langage, quoi. Hein? Bon, moi, j'ai la chance de côtoyer une petite fille de 3 ans quotidiennement et qui sort des trucs du style « Papa, j'ai le corps qui scintille », par exemple. Après, quand on se demande l'explication, c'est une explication très simple. C'est-à-dire « Je veux que tu me racontes une histoire », par exemple. Mais comme elle a entendu ces mots et qu'elle a encore un usage, ça fait penser un peu à Emily Dickinson. On en a fait une émission sur Emily Dickinson qui, au départ, fabriquait comme ça en prenant des mots dont parfois elle ignorait le sens précis, quoi, mais qu'elle les trouvait beaux, quoi, elle les trouvait lumineux et comme des bijoux, elle s'en servait. Alors peut-être, elle, oui, ça vous a touché parce que ce à côté de la vie, c'est... lourd de sens, hein. Mais il y en a plein d'autres. Hein. J'imagine, Michael, vous qui pratiquez beaucoup aussi des ateliers d'écriture.
Oui, je pense tout de suite là, à une phrase qui est née lors d'un atelier d'écriture avec des enfants où je leur avais écrit un texte dans lequel j'avais caché tous leurs prénoms. Hein, genre, je cherche un mot à méditer. Si on écoute la phrase, on entend Mohamed, Mehdi, Edith, etc. Et alors, les enfants avaient été un petit peu époustouflés par ce genre d'exercice. Ils ont voulu faire la même chose. Donc, je leur ai dit, OK, mais on va pas le faire avec les prénoms. Vous allez copier sur moi. C'est pas la peine. Donc, vous proposez des mots. Et il y a une fille qui propose petite fille de ces deux qui propose le mot poésie. Oh, je lui dis là, Bonjour, parce que j'ai déjà essayé, moi je ne suis jamais arrivé à quelque chose d'intéressant. Elle me regarde, elle me dit, mais Michael, c'est facile. Ah, je lui dis, c'est facile. Elle me dit, oui. Je lui dis, t'as une proposition à nous faire? Oui. Le matin se réveille sur ma peau hésitante.
On va rester là-dessus, c'est trop beau. Hein. On va se passer un petit peu de musique, qui s'appelle d'ailleurs Infancia. Le plus grand théâtre du monde, c'est le sexe de ta mère. Toi derrière ses lèvres, comme un mot qui se cherche. On t'attend, elle t'appelle dans ses cris, elle s'ouvre comme un livre. Tu l'ouvres, en dormant paraît-il. Elle crie et toi, tu dors encore. Ce mot « bébé » qu'elle te donne, par quoi elle te somme de venir, bégaiement de la vie, béance de toi tout occupée, grognement d'ours qui te pousse, avec la force d'un fleuve ancien. Là, tu es là. L'obus de ta tête, mon Dieu, ton crâne et ta plainte intime, je n'ai pas tout vu, j'étais derrière, dans le dos de ta mère. Mais maintenant cet œil débarqué du mystère, l'œil profond du voyageur, grand ouvert au-dedans, qui nous regarde, est-ce nous qu'il regarde? On te couvre, on t'amène à ton phare, au môle de la mamelle, à la mère de ta mère sur ce nouveau rivage. J'ai coupé l'ombilic, il est blanc, et coriace comme le calmar qu'on vend à Mélide. Adieu les aquatiques, voilà, tu es d'ici, aérienne maintenant. Tu dors encore, petite poule noire, qui dormait dans l'armoire, épuisée par ses 12 heures de route et 1000 années-lumière et 30 centimètres de distance de derrière à devant tes campements de peau. Tu dors de paix mondiale. Après le grand combat, le sang, les draps, quelques taches sur ton visage, les nions du ring, tes cheveux, beaucoup, collés par le shampoing des anges, tu dors à même le lin du lit. Je vais dehors fumer ma cigarette, janvier, il fait froid, rien ne sera pareil. Je fais un café pour la sage-femme et j'irai me laver les dents.
Journal de Gézir. 8. À Madagascar, on retourne les morts au bout de 7 ans. On les met en boîte, bien sec. La plus jeune de la famille monte en tête. Et tout le monde suit. Ça fait un long serpent au pied de la falaise qui se déroule, loin. On s'encorde bien solidement le long de la montée jusqu'à la grotte, presque tout en haut. C'est la plus jeune qui doit prendre les os, un par un. D'abord la tête. Tous derrière se hissant avec des lianes ou des cordes. La plus jeune, elle n'a pas pu, alors on m'a demandé. J'ai pris ma grand-mère, toute sèche, morceau par morceau. Il fallait donner la tête d'abord. J'ai donné la tête, un bras, une main. On la rangeait dans une boîte, en ordre. Tout est mis en ordre et on redescend. 9. Vie inconnaissable. 10. Un pouvoir de la littérature, réintroduire le chaos. 11. Au fond d'une librairie quelconque, le seul journal de deuil de Roland Barthes que je feuillette. Un livre sur la mort, mort universelle et niée, éveille en moi le désir de faire naître dans l'au-delà des chevaux qui descendent, qui montent, faire naître l'être et le non-être de soi, ce qui est le néant et qui nous brise. 12. Puis-je, encore, faire naître à volonté l'état patent où je me trouvais, à distance des corps, à distance de tout, de non-adhésion, de gel et d'opacité intime. Peut-être sous cette forme du journal. Il faut écrire au jour le jour, il faut s'ennuyer. Mais cela n'est pas, non, n'est pas donné à tout le monde.
J'aurais tant aimé qu'on me laissât le temps de te parler du ciel, de la soif, des étoiles qui dansent dans les remous de l'oued, ou des cordes du luth qui peignent les comètes. Petit frère, dans l'ombre du père, nous inventerons la douleur des frontières. Petit frère, tu es beau dans les bras de ta mère, tu es beau dans ceux de notre père quand il t'élève vers le ciel. Folie, fais et ne fais pas, folie, folie de croire, fais et ne fais pas dans une même bouche, comme si même lèvres avaient intimé, sème ton champ et brûle ta moisson, comme si même lèvres avaient intimé, égorge qui tu aimes, comme si même lèvres avaient intimé, enfante et éventre, folie, fais et ne fais pas, folie. Folie de vouloir obéir, folie d'entendre cela, fais et ne fais pas. Quel père es-tu qui n'as su écouter l'appel à l'insoumission?
Voilà, ainsi se termine cette émission un peu spéciale avec nos invités Anne Belin et Michael Gluck, spéciale autour du Printemps des Poètes et de son thème sur l'enfance. Voilà, je vois que tout le monde... Mon Dieu que c'était court. Vous pouvez retrouver la Bible sur tous vos lieux de travail, vos lieux de paresse et vos lieux de loisirs pour la diffusion orale de la poésie. On se retrouve toujours dans une quinzaine de jours avec nos mêmes invités pour continuer à parler, à retomber en enfance, on va dire. Voilà, c'est bien comme ça.